VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour une demi-heure d'infos et de décryptage de l'actualité en ce vendredi 31 juillet 2015. Jacques Aristide et Anne Albertson pour vous tenir compagnie. Les titres ce matin, le Tchad réintroduit la peine de mort pour punir les terroristes.
Le vote de ce projet de loi offre au gouvernement enfin un dispositif juridique qui soit à la hauteur de la menace qui guette notre pays.
En RD Congo, libération du député d'opposition Jean-Bertrand Ewanga, condamné l'an dernier pour offense au président Kabila.
En Côte d'Ivoire, plus de 50 policiers poursuivis pour rackets sur les routes.
À l'international, le Mollah Akhtar Mansour, nommé à la tête des talibans en Afghanistan.
Dans la partie magazine, plein feu sur le lent dépôt des candidatures en vue des élections au Burkina Faso.
Disons que pour le moment, nous tournons les pouces. Nous avons pensé quand même qu'il y aurait affluence dès le premier jour, à cause du fait que la notion d'indépendant qui a été introduite.
À venir également vos rubriques habituelles, la Minute Éco et le billet sportif.
Quelques mois seulement après son abolition, le Tchad a réintroduit la peine de mort afin de punir les auteurs d'actes terroristes dans ce pays, devenu la cible des islamistes nigérians de Boko Haram. Après plusieurs heures de vifs débats, le Parlement tchadien a adopté dans la soirée d'hier le projet de loi antiterroriste soumis par le gouvernement, mais en le durcissant considérablement selon l'AFP. Les députés ont en effet remplacé les peines à perpétuité prévues dans le texte initial pour les cas les plus graves par des peines de mort. De la même façon, les députés ont remplacé par des peines à perpétuité les peines de 8 à 20 ans de prison prévues dans la première version du texte. Ce texte a été voté dans la soirée par 146 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Une quarantaine de députés étaient absents dans une assemblée largement dominée par les partis pro-pouvoir. Nous reviendrons sur cette loi dans la deuxième partie de cette émission.
Quant à la force régionale contre Boko Haram, elle a désormais un chef. Le général nigérian Ilia Abba a été nommé hier pour diriger la force d'intervention conjointe multinationale, forte de plus de 8000 hommes. Dans le même temps, des témoins ont rapporté à l'AFP le massacre de 10 pêcheurs égorgés dans 3 villages proches de Baga, sur les rives du lac Tchad, par les insurgés islamistes qui multiplient depuis 2 mois raids meurtriers et attentat suicide. Toujours concernant la lutte contre Boko Haram, cet aveu du chef d'état-major des armées, Alex Badé, a déclaré hier dans son discours de départ que l'armée nigériane manque de moyens financiers et matériels pour mettre en échec le groupe islamiste nigérian. Plus tôt, ce mois-ci, le président Muhammadu Buhari a limogé Alex Badé et l'ensemble des chefs de l'armée nommés par son prédécesseur Goodluck Jonathan.
En République démocratique du Congo, un député de l'opposition, accusé d'offense au président Joseph Kabila, a été libéré hier. Cela après presque 1 an d'emprisonnement, le compte-rendu d'Eddy Issango.
Jean-Bertrand Ewanga, député membre du parti de Vital Kamerhe, un des principaux adversaires de Joseph Kabila, a recouvré sa liberté jeudi. La Cour suprême de justice de Kinshasa l'avait condamné à 1 an de prison ferme pour offense au chef de l'État, aux membres du gouvernement et aux membres du Parlement, des accusations qu'il niait. Ewanga n'a pas voulu commenter sa libération. L'opposant avait été arrêté le 11 septembre dernier, quelques jours après une manifestation au cours de laquelle il s'était publiquement prononcé contre toute modification constitutionnelle et avait appelé la population à résister contre un éventuel troisième mandat du président Joseph Kabila. José Maria Aranaz, chef du bureau conjoint de l'ONU chargé des droits de l'homme en RDC, qui avait 2 semaines plus tôt exprimé des inquiétudes sur une tendance à l'augmentation de violations des droits de l'homme en RDC, a qualifié la libération de Ewanga de très bonnes choses. Il faut encourager la libération sans retard de tous les autres qui sont encore emprisonnés depuis les événements des premiers mois de 2015, a déclaré Aranaz. Comme lui, beaucoup d'autres organisations exigent la libération des militants citoyens et politiciens encore en détention.
Nouveau coup de filet dans la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Cette fois, ce sont des policiers et gendarmes qui se retrouvent dans le collimateur de la justice. Le procureur militaire d'Abidjan a annoncé l'arrestation d'une cinquantaine d'entre eux chez Romain Dorsil.
Ils sont au nombre de 56. L'accusation portée contre eux, extorsion au barrage routier. Ces gendarmes et policiers ivoiriens sont poursuivis à Abidjan pour rackette après avoir été pris en flagrant délit, selon le colonel Ange Kessi, commissaire du gouvernement, que cite l'AFP. Les 56 prévenus seront jugés en octobre prochain et risquent jusqu'à 5 ans de prison, a ajouté le procureur. Il y a 4 ans, le président Alassane Ouattara avait promis de combattre ce genre de rackette, mais la situation reste préoccupante pour les automobilistes. Le problème a été soulevé par Human Rights Watch, qui vient de publier un rapport mercredi exhortant le gouvernement ivoirien à faire davantage dans la lutte contre l'extorsion au barrage. Le rapport reprend des chiffres officiels indiquant que cette pratique malhonnête a coûté quelque 567 millions de dollars à la Côte d'Ivoire l'an dernier, soit une baisse par rapport à 2012 où l'économie avait perdu 616 millions de dollars dû aux rackettes sur les routes.
Une organisation anti-esclavagiste de Mauritanie dénonce une violente répression à Nouakchott, au cours de laquelle plusieurs de ses militants ont été blessés et arrêtés hier. Rachid Bouda.
Le mouvement abolitionniste IRA affirme que ses membres étaient en train de manifester pacifiquement pour exiger la libération de leur chef et d'un de ses collaborateurs quand les policiers sont intervenus de manière brutale, faisant usage de gaz lacrymogène et de matraques, occasionnant de nombreux blessés. Selon Amadi Ould Lebous, le porte-parole de l'ONG, 23 manifestants ont été arrêtés et 6 blessés durant les affrontements. Monsieur Ould Abeid, leader du mouvement IRA et ancien candidat à la présidentielle de 2014, de même que 2 autres responsables anti-esclavagistes, ont été condamnés le 15 janvier dernier à 2 ans de prison ferme pour incitation à la révolte et appartenance à une organisation non autorisée. Depuis lors, l'IRA organise des manifestations qui sont le plus souvent dispersées par les forces de l'ordre. Le phénomène de l'esclavage persiste toujours en Mauritanie, malgré son abolition officielle en 1981. Et les peines encourues par les personnes reconnues coupables de ce crime peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le cahier international, en Afghanistan, les talibans ont annoncé ce matin la nomination du mollah Akhtar Mansour à la tête de leur mouvement en remplacement du défunt mollah Omar. D'après l'AFP, les talibans ont ainsi confirmé la mort de leur chef, l'énigmatique mollah Omar. Les rebelles islamistes sont appelés à des pourparlers de paix alors qu'ils sont menacés de se faire doubler sur leur terre par le groupe État islamique.
Et justement à propos du groupe État islamique, les pays de la coalition internationale menée par les États-Unis ont décidé d'une nouvelle série d'aides destinées à l'Irak pour lutter contre les djihadistes. C'était lors d'une réunion hier à Québec, au Canada, en présence notamment du général américain John Allen, émissaire spécial du président Barack Obama, et du ministre irakien des Affaires étrangères, Ibrahim al-Jafari.
Les responsables australiens des recherches engagés pour retrouver le vol MH370 se sont dit aujourd'hui de plus en plus convaincus que le fragment d'aile d'avion découvert sur l'île de la Réunion provient du Boeing 777. L'appareil de la Malaysia Airlines a disparu l'an dernier avec 239 personnes à bord.
Ici, aux États-Unis, le policier blanc inculpé de meurtre pour la mort d'un Africain-américain lors d'un banal contrôle routier a plaidé non coupable hier devant un tribunal de l'Ohio. Son acte a été qualifié d'insensé par le procureur. Ray Tensing, âgé de 25 ans, risque la prison à vie. Le juge a fixé à $1 million la caution pour son éventuelle libération. Policier sur le campus de l'Université de Cincinnati, il est accusé d'avoir tué Sam Dubose, 43 ans, après l'avoir interpellé le 19 juillet en raison d'une plaque d'immatriculation manquante.
Les autorités américaines de protection de la faune ont ouvert une enquête sur la mort du lion Cécile. Elles ont demandé à Walter Palmer, le dentiste du Minnesota, qui a tué le lion emblématique du Zimbabwe, de les contacter. La Maison-Blanche a en outre indiqué qu'elle évalue une pétition signée par plus de 100 000 personnes réclamant l'extradition du chasseur qui demeure introuvable.
Et pendant ce temps, l'ONU a appelé hier ses 193 pays membres à combattre plus efficacement le commerce illégal des espèces sauvages, comme les éléphants et les rhinocéros, qui sont menacés de disparition. Dans une résolution non contraignante, la première du genre, l'Assemblée générale des Nations Unies se déclare très inquiète de l'augmentation continue du braconnage des rhinocéros et du nombre alarmant d'éléphants tués en Afrique.
Nous passons maintenant aux nouvelles économiques. C'est la Minute Éco avec Michel Joseph.
La République démocratique du Congo a réceptionné jeudi à l'aéroport international de Kinshasa un Airbus A320 destiné à sa future compagnie aérienne nationale, Congo Airways. Cet appareil, baptisé Patrice Emery Lumumba, nom du premier ministre du Congo indépendant, devait à l'origine arriver le 30 juin, jour de la fête de l'indépendance de l'ancienne colonie belge, mais la compagnie a choisi de reporter la date pour que l'avion puisse arriver aux couleurs du pays. Un deuxième A320 doit se poser le 25 août. Les deux appareils ont été achetés d'occasion à la compagnie italienne Alitalia pour quelque 50 millions de dollars, selon des sources proches de la transaction que cite l'AFP. Le premier ministre Augustin Matata Ponyo était présent à l'aéroport de Ndjili. Un extrait de ses propos envoyé par notre station partenaire Top Congo FM.
Il y a une signification profonde, historique, patriotique, nationaliste. Et là, nous avons un symbole vivant du patriotisme, un symbole vivant du nationalisme. Lorsque le président de la République choisit le nom de Patrice Emery Lumumba, c'est un message fort qu'il envoie à tous les Congolais.
Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi son intention de lever sur le marché régional, à travers les soukouks, obligations islamiques, 150 milliards de francs CFA d'ici la fin de l'année. Le soukouk est un emprunt obligatoire islamique qui est à la finance islamique, ce que les asset-backed securities, ABS, sont à la finance conventionnelle.
Sans plus tarder, la page sportive avec Nicolas Pinault. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jacques.
Nouveau soutien pour Michel Platini avant l'élection à la présidence de la FIFA.
Le président de la Fédération italienne de football, Carlo Tavecchio, a annoncé qu'il soutenait la candidature de Michel Platini. Nous soutiendrons la candidature de Platini parce que c'est un dirigeant préparé et capable d'engager les réformes nécessaires, a-t-il écrit dans un courrier adressé au secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valk. Français d'origine italienne et longtemps vedette de la Juventus de Turin, Michel Platini avait pourtant déçu dans la péninsule quand, quelques mois après son accès à la présidence de l'UEFA en 2007, l'Euro 2012 avait été attribué à la Pologne et à l'Ukraine alors que l'Italie était favorite. La Confédération asiatique de football a elle aussi apporté son soutien à la candidature de Michel Platini jeudi. Par ailleurs, le sud-coréen Chung Mong-joon, ancien vice-président de la FIFA et personnalité incontournable du football asiatique, a annoncé son intention de briguer la présidence de la FIFA. Il en a profité pour présenter Platini comme un produit de l'actuel système FIFA, voire un protégé de Blatter.
Un résultat dans le tournoi de la Copa Libertadores.
Les Tigres de Monterrey ont été tenus en échec à domicile 0-0 par les Argentins de River Plate en finale aller. Les Tigres, qui n'ont jamais remporté cette compétition, devront jouer un match retour compliqué à Buenos Aires. Ce sera le 5 août prochain.
Petite victoire du Real.
Impressionnant face à Manchester City, puis l'Inter de Milan. Lors de ses deux derniers matchs amicaux, le Real de Madrid a montré un triste visage contre le Milan AC dans le cadre de l'International Champions Cup, c'était hier. Le club merengue s'est tout de même imposé à l'issue d'une longue séance de tirs au but dans la chaleur de Shanghai.
Le bal des transferts se poursuit.
Le défenseur zambien Stopila Sunzu a été prêté à Lille pour la saison prochaine par le club chinois de Shanghai. À 26 ans, Sunzu est déjà passé par la Ligue 1 avec le club sochalien qui était alors entraîné par Hervé Renard, le nouveau coach de Lille avec lequel il a aussi été sacré champion d'Afrique en 2012.
Et puis la Fédération britannique d'athlétisme soutient Mo Farah.
Il n'y a aucun soupçon d'irrégularité contre Mo Farah en relation avec les accusations de dopage qui visent son entraîneur américain. C'est ce qu'assure la Fédération britannique d'athlétisme dans son rapport. Le double champion olympique 2012 des 5000 et 10 000 mètres, sélectionné pour les Mondiaux de Pékin fin août, est éclaboussé depuis début juin par les accusations de dopage de la BBC visant son entraîneur américain Alberto Salazar.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà donc pour le journal. Vous êtes branchés sur la VOA émettant de Washington. Jacques Aristide au micro. Il est l'heure maintenant d'aborder la tranche magazine du Monde aujourd'hui. Direction Tchad, où un projet de loi antiterroriste controversé a été adopté à l'unanimité hier soir. Le Parlement, nous vous le disions tout à l'heure, s'est prononcé en faveur du texte qui rétablit la peine de mort et qui a été élaboré après les attentats sanglants de N'Djamena le mois dernier. Toutefois, la définition du mot terrorisme dans la nouvelle législation est jugée trop vague par les défenseurs des droits de l'homme, de même que par les membres de l'opposition tchadienne qui craignent des dérives liberticides. Depuis la capitale, le récit de notre correspondant André Kodmajingar.
Bien que les Tchadiens soient unanimes dans la lutte contre le terrorisme, le projet de loi portant répression des actes terroristes en République du Tchad, soumis à l'Assemblée nationale, a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les milieux sociopolitiques. Au cours des débats à l'hémicycle 730G 2015, qui a duré toute la journée, les langues se sont déliées. Pour les députés de la majorité présidentielle, cette loi vient à point nommé, car, soutiennent-ils, les adeptes de la secte islamiste Boko Haram tuent des milliers de citoyens tchadiens et qu'il faut les combattre à tout prix. En revanche, ceux de l'opposition estiment que ce projet de loi porte atteinte grave à la démocratie et à la cohésion sociale. Saleh Kebzabo est le chef de file de l'opposition.
Les Tchadiens aujourd'hui veulent être unis, réellement, sincèrement, profondément. Et c'est à nous, députés, de les y aider. La Constitution, elle est là. Les lois sont là. On ne va pas produire un texte et se référer à la Constitution pour dire qu'elle est là, on doit la respecter. C'est là où le gouvernement est tombé dans son propre piège. Jusqu'ici, dans nos services, je crois qu'on n'a pas formé des unités spéciales contre le terrorisme. Les Américains l'avaient fait il y a 2-3 ans, je crois. On ne sait pas où ils sont. Alors, il faut demander au gouvernement de former très rapidement des forces spéciales pour lutter contre le terrorisme. Parce que sans ça, on n'y arrivera pas.
Après moult tractations autour de ce projet jugé liberticide, les députés ont finalement voté à l'unanimité. 146 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le ministre secrétaire général du gouvernement chargé de relations avec l'Assemblée nationale se réjouit de l'adoption de cette loi. Abdoulaye Sabre Fadoul.
Le vote de ce projet de loi offre au gouvernement, enfin, un dispositif juridique qui soit à la hauteur de la menace qui guette notre pays. Je pense qu'au début, il y a eu une incompréhension, une mauvaise lecture de la part des députés qui n'était pas fondée, mais qui a fini par créer une certaine divergence au sein de l'Assemblée nationale. Après les explications des uns et des autres, par le débat, nous sommes arrivés à une même compréhension.
Le président de la gouvernance associative de l'Association pour la promotion des libertés fondamentales au Tchad, Banadie Boguel Purus, qui suivait de près les débats à l'Assemblée nationale, se dit déçu et souligne qu'il existe d'autres voies de recours pour demander l'annulation de cette loi.
En tant que défenseurs des droits de l'homme, nous considérons qu'il est inacceptable de prendre ce genre de mesures parce que c'est contraire à l'article 27 de la Constitution qui dispose clairement que les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de conscience, de religion, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de manifestation et de cortège sont garanties à tous. Nous sommes dans un état de droit et nous avons cette possibilité de demander en sorte qu'il y ait un recours au niveau du Conseil constitutionnel pour vérifier est-ce qu'il y a conformité ou inconformité par rapport à la Constitution et il y a possibilité encore de censurer la loi par ces voies de recours qui sont bien entendu prévues par les textes de la République.
André Kodmajingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Toujours au chapitre de la lutte antiterroriste, le Nigeria et le Cameroun se sont dit déterminés à porter un coup fatal à la menace Boko Haram. Ce sont les mots mêmes des ministres des Affaires étrangères des deux pays à l'issue de la visite de deux jours qu'a conclue hier au Cameroun le président nigérian Muhammadu Buhari. Bien que le problème financier constitue une pierre d'achoppement dans cette guerre, des observateurs se disent confiants à l'image du professeur Manasseh Aboya Ndong de l'université de Douala.
quelque chose va changer de manière significative. Parce que les chefs d'État ont tenu à inscrire dans le cœur de cet agenda le destin commun qui les unit et puis l'interdépendance de la question de la sécurité au menu de cette interdépendance, la secte islamiste de Boko Haram. Les chefs d'État ont inscrit dans leur convergence la perspective d'éradiquer dans les tout prochains jours la nébuleuse Boko Haram dans le carré constitué par le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun. Depuis que le président nigérien a prêté serment, une rencontre de cette nature n'avait pas intégré le Cameroun. Et depuis cet après-midi, l'agenda visant à éradiquer la secte Boko Haram dans cette partie du continent est largement partagé par les populations et les officiels des deux pays.
Est-ce que l'on peut dire qu'à l'issue de cette visite, la menace Boko Haram va être régulée?
Naturellement, cette perspective est souhaitable. Naturellement, les deux chefs d'État ont indiqué que, au-delà de la jubilation de la nébuleuse Boko Haram, il n'y a pas de possibilité de combattre ce fléau du terrorisme sans le développement mutuel régulièrement partagé par les deux pays. Mais de manière spécifique, la détermination indiquée par les gouverneurs des États fédérés qui ont fait le déplacement de Yaoundé, aux côtés de leurs homologues gouverneurs du Cameroun, articulent justement la perspective de juguler dans les prochains jours la nébuleuse Boko Haram dans cette partie du continent africain.
Est-ce que la détermination avait manqué vu à le renforcement sur le terrain et le nombre d'exactions commises par Boko Haram?
Naturellement, la détermination a chopé du côté camerounais par le droit de poursuite qui n'était pas évident pour ceux qui étaient des forces armées camerounaises qui envisageaient de continuer à poursuivre les assaillants de Boko Haram une fois qu'ils voulaient replier en territoire nigérien. Le gouvernement nigérien n'avait jamais entrevu cette possibilité qui est régulièrement accordée aux autres pays comme le Tchad et le Niger. Aujourd'hui, je pense qu'une fois que les malentendus ont été dissipés, une fois que le linge sale des faiblesses articulées par les uns et les autres a été lavé en famille, c'est une autre ère qui s'ouvre dans la volonté de combattre ce fléau dont la menace gangrène la paix et le développement des activités économiques des deux pays.
Le professeur Manassé Aboya Ndong de l'université de Douala était interviewé par Eric Manirakiza.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
En République démocratique du Congo, suite du procès de l'assassinat de l'activiste des droits de l'homme Floribert Chebeya et de son chauffeur fidèle Bazana, les plaidoiries ont débuté hier devant la haute cour militaire de Kinshasa. Pendant près de 4 heures, les avocats des parties civiles ont notamment démontré que le militant Chebeya avait été tué pour avoir établi un rapport impliquant des éléments de la police et de l'armée dans ce qui est appelé l'affaire BDK, le mouvement politico-religieux Bundudia Congo, dans la province du Congo central, autrefois le Bas-Congo. Pour faire le point, Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa, nous propose ce reportage de Cyril Milandou.
Les rapports faits à l'époque par l'ONG La Voix des Sans-Voix impliquant des autorités de la police et de l'armée ont précipité la mise à mort de Floribert Chebeya. Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga, l'un des avocats des partis civils.
Tout commence par le rapport que Floribert Chebeya avait fait sur le massacre des adeptes de Bundudia Congo, Bas-Congo. Alors dans les génocides, il cite les autorités politiques et administratives ainsi que les autorités de la police et de l'armée. Il a même envoyé des communications en Belgique où la procédure devrait continuer. Au point de demander de quelle manière l'AVCE devrait se constituer partie civile dans cette procédure-là. Le problème, c'est de considérer les actes qu'il a posés et qui pouvaient énerver les autorités du pays. Et parmi les actes qui pouvaient énerver, il y a ce rapport-là. Il y a eu les dénonciations dans la demande d'humanisation de l'île Carcero, la lettre qu'il avait envoyée en Belgique à maître Jean-Claude Ndiakane Et le contenu de toutes ces correspondances ne pouvait jamais laisser indifférentes les autorités du pays, notamment ceux de la police qui étaient impliqués, parce que dans le rapport sur le massacre de Bundia Congo, il cite nommément des gens. Alors ça, on ne peut pas lui pardonner.
Maître Peter Ngomo, l'un des avocats des partis civils, regrette que l'ancien patron de la police, John Numbi, ne soit pas poursuivi dans cette affaire.
Tous ces groupes-là sont poursuivis pour association de malfaiteurs dès le départ. Et vous verrez également, tout a été fait pour que John Numbi ne soit pas poursuivi. On a eu à retirer sa décision de renvoi, mais ça n'a pas été le cas. Tout a été fait déjà dès le départ. Même si on n'a pas voulu que John Numbi puisse comparaître comme prévenu. Mais j'ai dit, mais les traces sont là. On voit qu'à tout moment, John Numbi intervient quelque part.
La défense a soutenu que les partis civils n'ont pas apporté de preuves impliquant leur client, le colonel Daniel Mukalai. Maître Jean-Marie Kitwanga, l'un des avocats de la défense.
Les partis civils n'ont pas pu quand même aider la cour à pouvoir obtenir les éléments, surtout en particulier en ce qui concerne l'association des malfaiteurs qu'ils ont pu développer aujourd'hui. Ils nous laissent encore sur notre soif quant à ce qui concerne cette association des malfaiteurs. Ils ne démontrent pas en quoi notre client a constitué cette bande et quel a été le rôle de chacun d'entre eux. On comprendrait très mal que dans une institution officielle telle que la police nationale congolaise, qu'il soit constitué une association des malfaiteurs pour part un manque même de respect des institutions congolaises.
La haute cour militaire ayant décidé la disjonction des poursuites à l'égard des trois policiers en fuite, les cinq autres sont poursuivis pour assassinat, enlèvement et association des malfaiteurs. Kinshasa, Cyril Milando, Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, une semaine après l'ouverture du dépôt des candidatures, les partis politiques et les regroupements d'indépendants ne se bousculent pas au portillon pour soumettre leurs listes. Le pays, vous le savez, se prépare à tenir son tout premier scrutin après l'insurrection populaire qui a balayé l'ancien président Blaise Compaoré. À 24 heures du délai de dépôt des dossiers, la commission électorale nationale indépendante attend toujours le gros morceau en vue des législatives couplé à la présidentielle du 11 octobre prochain. De Ouagadougou, le reportage de notre correspondant Issa Napon.
Depuis l'ouverture le 24 juillet dernier des dépôts de candidatures, c'est une bonne ambiance de travail qui règne au siège de la Commission électorale nationale indépendante burkinabé, la CENI. Dans la section chargée de la réception des dossiers de candidatures, une cinquantaine de personnes réparties en cinq groupes prennent leur mal en patience car on ne se bouscule pas à la porte ces premiers jours pour les dépôts, selon le commissaire à la CENI et rapporteur de l'instance de réception des dossiers, Adama Dera.
Disons que pour le moment, nous tournons les pouces. Nous avons pensé quand même que l'affluence dès le premier jour, à cause du fait que la notion d'indépendant qui a été introduite. Bon, jusqu'à présent, je crois qu'il n'y a que quatre équipes qui ont réceptionné des dossiers. Nous avons reçu quatre dossiers, en tout et pour tout, depuis le 24. Deux regroupements d'indépendants et deux partis politiques. C'est bien meilleur comme moisson pour le moment.
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette timidité des dépôts des listes de candidatures, car entre sélection des candidats et harmonisation des visions avec la base, c'est tout un processus qui peut prendre son temps, de l'avis du président de la commission en charge des consultations électorales de l'Union pour le progrès et le changement, Nathanaël Ouedraogo.
En fait, c'est un long processus parce qu'il s'agit d'être humain, il s'agit de stratégie, il s'agit de la nation et quand c'est des questions comme ça, ce n'est pas si simple à trancher. Sinon, tous les dossiers sont prêts. Seulement, il y a un problème de classement qui joue et qui fait que parfois, bon, on est encore obligé jusqu'au dernier moment de faire des consultations, des tractations.
Les préparatifs vont aussi bon train au siège de l'ex-parti majoritaire, le Congrès pour la démocratie et le progrès. À part quelques petits réglages à opérer, tout est presque prêt de l'avis du secrétaire général du parti et en charge des questions électorales au CDP. Un parti où l'heure est un grand changement dans la finalisation des listes. Olo Anissé-Pouda.
Nous avons pris d'autres dispositions. Écouter la base, écouter le choix donc de nos militants qui nous demandent pour une des premières fois dans l'histoire de ce parti de respecter autant que faire se peut, en tout cas la décision de la base. C'est ce que nous avons fait. Il y a une procédure, c'est la compilation des dossiers, c'est la vérification en amont. Nous avons la pratique de cette opération et je pense que nous allons déposer les dossiers à bonne date.
Les réunions se succèdent ainsi au sein des différents états-majors des candidats qui entendent prendre d'assaut les 45 circonscriptions en plus de la liste nationale mise en compétition. Les partis politiques et les regroupements d'indépendants en course ont jusqu'à ce 1er août à minuit pour déposer leur liste. À Ouagadougou, Issa Napon pour La Voix de l'Amérique.
C'est ici que nous allons clore ce dernier numéro de la semaine du Monde. Aujourd'hui, Anne Albertson a dirigé la mise en onde, John Ellison a assuré la partie technique. Je leur dis merci pour toute leur aide tout au long de cette semaine. Et à vous, chers amis de la VOA, nous vous remercions de votre fidélité et vous souhaitons un excellent vendredi et un très bon week-end. C'était Jacques Aristide à Washington. À très bientôt. Take care.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.